Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour, amis bons vivants. J-2 avant le réveillon. La table est mise et vos rondes serviettes vous attendent, hein, comme tous les samedis, de 11h à midi et demi. Alors c'est vrai, un réveillon peut en cacher un autre. Recettes, produits de fête, coup de cœur et coup de gueule, nous allons vous donner des idées pour finir l'année en beauté. Toujours de bons conseils et plus que jamais pour la Saint-Sylvestre. Yves Condebord, membre officiel des Bons Vivants, est avec nous ce samedi. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent.
La mine est patente.
Parfait, on est en pleine forme.
Mais je vois ça. Il a l'art et la manière de mettre les bouteilles sur leur 31 et tailler des costumes aux piquettes, et il a bien raison. C'est Olivier Pouls qui est attablé à cette table.
Bonjour Laurent, et tout à l'heure, je vous aiderai à choisir votre champagne.
On est preneur. Et comment ? Marion Sauveur nous rejoindra dans un instant pour le journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud décortiquera pour nous le plateau de fruits de mer idéal. Impossible évidemment de passer à côté, les huîtres sont ouvertes et il est temps de les déguster, on vous aidera à bien les choisir. Comment passer le nouvel an sans se ruiner, sans passer des heures en cuisine? On va vous donner plein d'idées. Et puis écoutez bien, notre invité ce samedi est une légende de la gastronomie française. 3 étoiles au Michelin depuis plus de 40 ans à Eugénie-les-Bains dans les Landes, membre fondateur de la nouvelle cuisine, inventeur de la grande cuisine minceur, Michel Guérard est notre invité et je peux vous dire qu'on se réjouit. À table les amis. Joli programme, messieurs.
Alléchant.
Ah ben moi j'ai déjà faim, figurez-vous.
Comme tous les samedis, avant d'aller faire un tour au marché, c'est l'heure du goût de la semaine. Un produit, une recette, un événement. Quel est votre goût cette semaine? On va commencer par vous, Yves Condebord.
Moi c'est un produit d'exception, un produit rare, un produit de saison. Dans l'estuaire de la Loire, on l'appelle la civelle. Dans l'estuaire de la Gironde, c'est aussi la civelle. Et chez nous, dans l'estuaire de la Dour, c'est la pibale, la levain d'anguille.
Les petites anguilles.
C'est exceptionnel, c'est vraiment une tradition, vraiment là, c'est de fin d'année, c'est la pleine saison, et on les fait très simplement, juste poêler avec une pointe d'ail, relevée avec un gramme de piment d'Espelette, un peu de persil, et je peux vous assurer, Laurent,
oh, c'est beau ça.
C'est une messe.
On en trouve encore ?
C'est compliqué
à trouver.
On en trouve
encore. Hein. Alors, il y a une vraie réglementation, la pêche est vraiment réglementée, les quotas sont très respectés, il y en a très peu de pêchés. Mais on en trouve, et celles qu'on trouve, je peux vous assurer qu'on se bat pour les avoir.
C'est cher.
Et j'ai eu la chance. C'est cher. C'est un produit qui coûte aujourd'hui entre 450 et 650 euros le kilo.
Ah oui.
Mais on n'en mange que 50 grammes, Laurent. Mais j'ai quand même envie de vous dire, et de dire à tout le monde, aux gastronomes, une fois dans leur vie, il faut goûter ce produit-là.
Ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûté dans sa vie, quoi.
C'est indispensable. Et j'ai eu la chance d'en manger cette semaine. Vous avez vu.
Oui, c'est pour ça, je me disais, il y a un truc sur la mine. Oui, mais à 450 euros le kilo, on peut avoir bonne mine quand même. Alors, Olivier Pouls, quel est votre goût de la semaine?
Alors moi, il est plus accessible, mais aussi, il faut l'avoir goûté une fois dans sa vie. Je vais tout vous dire. J'ai réveillonné chez moi, à Bruxelles, en Belgique. Et il y a une tradition, quand on fait le réveillon de Noël, on mange, à cette période de l'année, des spéculoos.
Ah bah évidemment.
Et les spéculoos, ils viennent, en ce qui me concerne, d'une maison fantastique qui a plusieurs points de vente, notamment l'un des plus célèbres à côté de la Grand Place de Bruxelles, la maison d'Andois.
Ah bah oui, ils font des gaufres exceptionnels.
Des gaufres, des spéculoos. Et vous savez, ce biscuit qui est croquant, avec ce goût d'épices.
Ce sucre vergeoise, la cassonade, que vous l'appelez dans le Nord.
Exactement, la cassonade. Et là, ils en font une version qui est recouverte de chocolat. Alors, autant vous dire que le chocolat noir et le spéculoos,
ah, c'est bon ça.
C'est absolument mais incroyable. Oui, voilà mon goût de la semaine.
C'est la période pour se faire plaisir. Ben moi, mon goût de la semaine, il n'est pas loin du vôtre. C'est une petite douceur, pareil. C'est le marron glacé. Je trouve que c'est la même chose. Ça fait partie des choses qu'il faut au moins goûter une fois en ce moment. C'est pas donné, un bon marron glacé. On peut le payer 2-3 euros par pièce dans certaines boutiques. Mais j'adore cette douceur du marron glacé avec ce petit glaçage par-dessus. Moi, ça me rappelle mon enfance. Et quand on m'en donnait quand j'étais gamin, j'avais vraiment la sensation que c'était quelque chose d'assez rare et d'assez exceptionnel. Et j'aime bien l'idée qu'une petite douceur comme ça qu'on peut s'offrir au coin de la rue rapporte comme ça de jolis souvenirs d'enfance. Alors du coup, pas de trêve des confiseurs pour les artisans des métiers de bouche, les amis. Direction un marché populaire et bien achalandé de la capitale. C'est le marché d'Aligre dans le 12e arrondissement. Quels sont les produits qui ont votre faveur pour le réveillon? Voici vos réponses, messieurs, dames.
Alors pour les fêtes, ce sera traditionnel, un chapon farci au four avec une cuisson toute lente pour qu'il soit bien moelleux. Ça coûte dans les 70 euros, on va être 8 ou 10. Les légumes de saison, c'est pas très cher.
Pintade chaponnée, mini chapon, poularde en faisant. C'est à 14, 15, 16 euros le faisant. Pour 4, on mange.
J'ai acheté des mandarines corses parce qu'on les voit. Des clémentines corses. J'ai pas les yeux très ouverts, je sors de la piscine, alors voilà.
Des pommes de terre pour la soupe, c'est Saint-Nicolas. Je vais en prendre 3, s'il vous plaît.
Du foie gras.
Les huîtres, pour moi, c'est tout à fait obligatoire.
Après, tout ce qui est coquillage, généralement, ça augmente pas
trop pour les fêtes. Quand on a un petit budget, il faut éviter tout ce qui est homard et langoustes.
Ben, je ne prépare rien puisque je suis invitée. Donc, je vais juste arriver et faire la fête.
Merci beaucoup.
Mais vous avez bien raison. Bonne journée, messieurs, dames. Vous avez raison, madame. Il faut se mettre les pieds sous la table de temps en temps. Ça fait du bien aussi au réveillon, franchement. Qu'est-ce que vous allez faire, Théon, au réveillon, vous, le 31, Yves Courdebord ?
Je vais me faire plaisir et je vais faire plaisir. Je travaille à la mairie de Paris pour le Secours Populaire. On fait un menu à quatre mains avec Yannick Aleno qui va faire le dessert. Et moi, je vais faire le salé.
Super.
Voilà, on va servir là-bas avec la maire de Paris. On va passer un moment très agréable. On va partager, on va discuter, on va manger,
bravo,
on va festoyer.
Puis il y aura des bouchons.
Et il y aura des bouchons. Hein,
toujours, il y a des bouchons qu'on va ouvrir, bien entendu.
Sûr.
Je parle de ça, Olivier Pouls.
Eh bien, moi, je vais faire un réveillon avec beaucoup d'amis. On sera nombreux. Donc, on va faire un grand plat convivial à mettre au milieu de la table. Et ce sera une grande poule au pot.
Ah, ça, c'est beau. Mais vous avez bien raison. Alors, vous êtes nombreux à faire attention à votre budget pour le réveillon. Nous aussi, on en reparle dans un instant avec Yves Candebord et Olivier Pouls. On va vous donner plein d'idées de menus accessibles. Et puis, vous l'avez entendu, sur le marché d'Aligre, c'est la saison des huîtres. Pas de réveillon sans huîtres. On a posé la bourriche au centre de la table, c'est l'heure de les ouvrir dans un instant. Des creuses, des plates, des fines, des spéciales, comme disait Coluche sur Europe 1, il y en aura pour tout le monde. A tout de suite.
Pour ces fêtes de fin d'année, Laurent Mariotte vous aide à trouver des idées à la table des bons vivants.
J-2 avant le réveillon, et bien entendu, pour le plus grand nombre d'entre vous, pas question de négliger les huîtres. Un réveillon sans huîtres, c'est vrai, c'est un petit peu comme un plateau de fromage sans compter. Vous êtes d'accord, Yves Courdebord ?
Totalement.
Un baiser sans moustache.
Impensable.
Et comme quoi, vous dites ?
Un baiser sans moustache.
Alors là, je suis pas d'accord. Hein.
On va vous expliquer dans un instant la différence entre une huître triploïde et diploïde. Mais avant, on va faire un petit tour du côté des calibres et des variétés pour qu'on s'y retrouve comme il faut. Alors les calibres, déjà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous le savez. Plus le numéro de l'huître est petit, plus la taille est grosse. Je vous signale au passage qu'il y a quand même des huîtres 0, double 0 et triple 0.
Ouais, ben là, c'est des steaks, c'est des morceaux énormes.
C'est un steak iodé, l'huître triple 0. C'est la pied de cheval, par exemple, à Cancale. C'est magnifique.
Tout à fait, mais après, quand on a une triple 0 en belon, c'est juste exceptionnel. Laurent.
Ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûté aussi dans sa vie. Alors, plate ou creuse, on le sait, les huîtres creuses représentent l'essentiel de la consommation pendant les fêtes, mais une belle huître plate aussi, de temps en temps, c'est agréable.
C'est délicieux. Elles sont plus chères, elles sont plus rares, mais c'est vrai qu'elles ont un goût qui est différent. Elles sont deux variétés. Il n'y a que deux variétés d'huîtres, en fait, les plates et les creuses. Ces creuses qui viennent, savez-vous, du Japon, en fait. C'est une variété japonaise qui était réintroduite sur nos côtes.
Exactement. Alors, fine ou spéciale, là aussi, on voit cette appellation souvent chez les écaillés, chez les poissonniers. On va réexpliquer, Yves Candebord, la différence entre une fine et une spéciale. La spéciale, il y a de la matière.
Voilà. La spéciale, c'est une huître qui est charnue, d'ailleurs. D'ailleurs, ça garantit un taux de chair de 18%.
Oui.
Donc, c'est une huître, j'ai envie de vous dire.
Il y a de la mâche.
Il y a de la mâche. On croque dedans. On croque dedans. Et après, la fine claire, mais c'est une claire. Là, c'est une claire où la texture est beaucoup moins charnue, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus iodé. Moi, la fine claire, c'est vraiment l'huître de l'apéro.
C'est ça, oui.
Ça se mange très facilement.
Avec un petit blanc sec.
Un petit blanc sec.
Exactement.
Tandis que la spéciale, c'est plus l'huître un peu de gastronomie de repas.
C'est Marraine Oléron qui a développé ces deux variétés. C'est vrai qu'elles sont affinées dans des bassins et ça donne effectivement des goûts très, très agréables. Alors c'est la bonne saison aussi, les amis, pour les huîtres de pleine mer. C'est plus rare, ça fait partie des choses qu'on connaît peut-être moins. Elles ont un petit goût rustique. Et justement, Julien Amat a rencontré Sophie Sury, qui est ostréicultrice et propriétaire du Verclos. C'est la seule et unique auberge paysanne de la mer au monde. C'est à Saint-Martin-de-Ré, sur l'île de Ré, en Charente. Alors elle nous parle de ces huîtres pleine mer, mais c'est l'occasion aussi de faire la différence entre la fameuse diploïde et la triploïde.
Donc l'huître fine de mer, c'est une huître qu'on pêche dans nos parcs en mer et qu'on met directement à la vente. Donc ça va être un produit qui va être iodé, qui va être fort en goût. En hiver, elle va beaucoup manger, engranger des forces pour préparer sa reproduction. Au printemps, elle passe à ce qu'on dit en lait. Suivant la météo, si on a une météo qui est chaude, un peu orageuse, elle peut délaiter rapidement, c'est ce qui s'est passé effectivement en 2018 parce qu'on a eu des températures caniculaires. Et alors là, ma pauvre huître, elle est toute fatiguée parce qu'elle a fait un gros effort, elle a fait ses bébés, donc elle est toute maigrichonne. Et à partir de septembre, on repart sur une huître qui va refaire des forces. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'une huître naturelle née en mer, c'est qu'en fait, tout au long de l'année, il y a des goûts, des textures de chair qui sont différentes. En comparaison à une huître d'écloserie, notamment triploïde, qui elle est manipulée génétiquement pour qu'elle ne se reproduise pas, cette huître est standardisée et uniformisée, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps le même goût tout au long de l'année, qui ressemble à sa copine d'à côté, et qui, moi, franchement, pour moi, n'a aucun intérêt gustatif. Donc on a deux écaillés, on a Gauthier et Arnaud.
On fait attention, on met des gants, on se protège toujours la main qui tient l'huître.
Il faut mettre la pointe du couteau à un tiers du haut de l'huître et deux tiers du bas, parce que c'est là où se trouve le muscle. Voilà, c'est ce que fait Gauthier. Et après, voilà, on coupe le muscle, ce qui permet de mettre le manteau sur l'huître.
Allez hop.
Ah, voilà un joli bruit. Ça, c'est un bruit de saison. C'est tout. Ah, un autre bruit de saison. Oh, une belle bouteille de champagne ouverte par Olivier Pouls. On va en parler dans un instant, tiens, du champagne. C'est vrai que c'est agréable de bien mâcher l'huître. J'ai envie de dire aux gens qui n'ont jamais mangé d'huître, Yves Candebord, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut commencer par le pied, en fait. C'est doux, c'est sucré, ça a presque un petit goût de Saint-Jacques.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est un côté, en tout cas, nous, on dit, c'est un côté de noisette.
C'est
fond de noisette, c'est très, très agréable. Et c'est vrai que le pied, des fois, on a tendance. Que les gens qui ne connaissent pas, de laisser attacher à la coquille.
C'est bon,
il faut
ça.
Le manger. C'est succulent.
Il faut prendre son pied. Évidemment. Un petit condiment, tiens, pour sublimer les huîtres. Comment vous les servez, vous, par exemple, en ce moment?
Alors, bien sûr, il y a la chose le plus classique, c'est le vinaigre à l'échalote.
Ah,
ouais.
Ça fait débat. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'acidité. Avec le gras, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des huîtres qui sont magnifiques en ce moment de l'année. Elles sont grasses, elles ont ce goût de noisette. Donc l'acidité va relever un peu les saveurs.
C'est vrai.
Mais le citron, ça suffit.
Si on veut être un peu exotique, nous, on en fait une que j'adore, c'est pomme Granny Smith, concombre, une pointe de gingembre, tout ça à la centrifugeuse, et juste déposer une petite cuillère à café dessus. Ça nous fait voyager.
Mais les puristes aiment beaucoup l'huître avec le tour de moulin à poivre. Hein. Sur l'huître, ça marche toujours très bien.
Hein. Et Laurent, une petite astuce. 1 centilitre de whisky.
Ah,
un whisky tourbé.
Alors ça, c'est incroyable.
L'huître, 1 centilitre de whisky en même temps dans la bouche.
Le côté fumé.
C'est
le
un accord fumé, hallucinant. Ça.
C'est hallucinant.
Ah oui, ça, il faut goûter ça, absolument.
Et alors, en parlant d'accord, puisqu'habituellement, on boit toujours des vins blancs très secs avec l'huître. Hein, il y a deux écoles d'accord un peu originaux. Dans le sud-ouest, on boit des vins liquoreux avec les huîtres. Et de temps en temps, c'est pas mal. Et moi, ce que j'ai fait, c'est certains vins rouges de Pinot d'Aunis, qui est un vin avec un caractère très poivré. Ce Pinot d'Aunis de la Loire marche admirablement, lui aussi, avec les huîtres.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Ce sera le dernier de l'année. On va faire justement le bilan des événements qui ont fait la gastronomie en 2018. A tout de suite sur Europe 1.
De 11h à 12h30, c'est le réveillon d'avance à la table des bons vivants et ça plaît à tout le monde, Saint-Laurent.
Absolument Justine, le réveillon du 31 a commencé depuis 11h à la table des bons vivants. On rajoute des assiettes et les coudes se resserrent. Olivier Pouls et Yves Candebord sont avec moi. Nous retrouverons Jean-Luc Petit-Renaud dans quelques instants. Et le grand Michel Guérard sera des nôtres. Mais juste avant, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Le réveillon s'est bien passé?
Mais oui, très bien,
vous
j'attends
avez été
le
sage
prochain.
Vous avez eu tous les cadeaux que vous avez commandés au Père Noël?
Eh oui.
Ah, très bien. Alors c'est vrai que c'est un journal de la cuisine un petit peu particulier parce qu'on va s'amuser à récapituler 2018 et on va se projeter en 2019. Tout de suite, les titres du journal de la cuisine, Marion.
On va revenir sur les personnalités qui ont marqué la gastronomie cette année. Et vous le verrez, c'est encore une fois très masculin. Et je vous dirai dans quelques instants quelles sont les tendances culinaires qui vont marquer la nouvelle année.
Gastronomie donc, plusieurs personnalités. Comment ont marqué l'année Marion?
Et oui, on commence avec les chefs Christophe Bacquier et Marc Vera. En 2018, ils ont décroché tous les deux 3 étoiles dans le guide Michelin. Écoutez Christophe Bacquier au micro d'Europe 1 au lendemain de cette annonce.
Toutes les équipes travaillaient beaucoup pour arriver à cette distinction et on y est arrivé, on est super fiers et très heureux.
Et une belle année pour Christophe Bacquier qui a aussi été élu chef de l'année par ses pairs à l'âge de 46 ans.
Oui.
Et le Go Emilio a couronné Alexandre Mazia, cuisinier de l'année dans son édition déjà 2019. Jean-François Piège et Christophe Bacquier encore décrochent 5 tocs.
Que du beau monde. Alors malheureusement, l'année 2018 a aussi été marquée par la disparition de 2 grandes étoiles de la gastronomie, Marion.
Mais oui, Paul Bocuse, le pape de la gastronomie. Monsieur Paul, comme on l'appelait, se définissait comme un adepte de la cuisine traditionnelle qui aime le beurre, la crème, le vin.
Oui.
On le connaît pour sa poularde demi-deuil, son gratin de queue d'écrevisse, sa soupe végéeuse, son consommé à la truffe surmontée d'une pâte feuilletée. Et puis Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde. Il était l'influent de la nouvelle cuisine gastronomique française. Parmi les incontournables de Joël Robuchon, la purée de pommes de terre et son gratin de macaroni aux truffes et foie gras.
Eh oui, c'est triste, mais on peut se consoler en se disant qu'ils ont formé de beaux cuisiniers qui continuent justement à mettre en scène leur belle cuisine. Tendance, en 2019, nos assiettes seront saines.
Et oui, c'est ce qui ressort de différentes enquêtes. Alors parmi les ingrédients qui devraient faire fureur l'année prochaine, les champignons lichénisés, l'algue rouge ou encore les calamondins, ces petites oranges qui ont le goût d'orange amère, mais aussi les produits asiatiques comme le miso, cette pâte fermentée japonaise traditionnelle, le pho, la soupe vietnamienne et le tofu, pâte blanche chinoise. Alors il y a un régime dont vous devriez pas mal entendre parler, c'est le régime pégan.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Pour la contraction de paléo et vegan. Alors, au menu des aliments bruts, non transformés, des fruits et des légumes en quantité, mais surtout aucun produit issu des animaux.
Très bien, mais si ça continue, on va ne manger que des graines.
Alors, côté boisson, les eaux devraient avoir de plus en plus de succès, qu'elles soient pétillantes ou aromatisées ou tout simplement des infusions aux plantes.
Ah, bah voilà, bah, on a bien tout noté, puis on va suivre justement 2019 si tout ça se met en place. Bah, merci.
Vivons 2020,
Laurent. Merci, Marion Sauveur. Merci beaucoup. Alors comme à Noël, hein, vous êtes nombreux les amis à vouloir le meilleur pour le réveillon du 31, tradition et produits de saison bien entendu. On vous a parlé des huîtres en début d'émission. Nous verrons aussi qu'il est possible de bien réveillonner sans se ruiner. C'est simple, avec du boudin blanc, du tarama, une belle truite fumée, des œufs de poisson. Vous entendrez qu'il existe plein d'alternatives. Mais on va commencer par deux incontournables du réveillon, le saumon fumé et le foie gras. On est d'accord, Yves Candebordes, c'est le couple phare du 31, ça.
Oui, c'est le couple phare du 31. C'est, voilà, c'est des produits qu'on a envie de manger à cette époque-là, parce que c'est des produits d'exception, et c'est des produits de fête, c'est des produits de partage, et c'est des produits de qualité quand ils sont français.
Foie gras de canard du sud-ouest ou foie gras d'oie d'Alsace, alors?
Alors, je vais vous dire, les deux, quand ils sont bien faits, les deux sont magnifiques. On ne va pas faire une guerre entre l'un et l'autre. Je dirais, moi, bien sûr, foie gras de canard du sud-ouest, mais pas n'importe quel foie gras. Voilà, c'est ça.
Alors, on peut expliquer à nos auditeurs qu'en l'achetant cru, on va faire des économies et que ça coûtera moins cher et qu'on peut faire son foie gras soi-même. Deux, trois petits trucs, tiens, pour bien le choisir cru, c'est 500-600 grammes, un joli foie gras de canard.
Voilà, il ne faut pas, hein, faut pas aller au-dessus, parce que plus ils sont gros, plus ils relâcheront de graisse.
Ben oui.
Après, ce qui est important, c'est le prendre, voilà, qu'il soit beau, c'est-à-dire sans hématome, sans tache.
Souple au toucher. Hein.
Souple au toucher, parce que voilà, parce qu'on sait très bien que s'il est ferme, c'est qu'il est chargé en graisse. Et ce qui est important, Laurent aussi, il faut l'acheter en vrac. Il ne faut pas l'acheter sous vide. Le problème de l'acheter le foie gras cru sous vide, ça casse les fibres et à la cuisson, on n'a pas un bon résultat.
D'accord.
Mais l'inconvénient aussi de l'acheter en vrac, c'est qu'une fois qu'on l'a acheté, il faut le cuisiner dans les 12 heures.
Au bain-marie, 100 degrés, une température basse pendant quoi, c'est 50 minutes?
Oui, il faut dire qu'il faut, voilà, nous ce qu'on dit techniquement, c'est quand le foie gras est au bain-marie dans sa terrine, quand on y met le doigt dedans, il faut y mettre le doigt dedans, quand on le sent, voilà, légèrement la chaleur arriver sur le doigt, c'est que le foie gras est cuit.
Et puis un mot sur l'assaisonnement, c'est important de bien réussir son assaisonnement quand même. Hein.
C'est primordial. Je dirais l'assaisonnement est très personnel, parce qu'il y en a qui vont aimer plus de sel, moins de poivre, mais la base c'est 12 grammes de sel, 3 grammes de poivre, 1 gramme de sucre.
Au kilo, après, hein.
Au kilo,
au kilo,
hein. Au kilo. Et après, bien sûr, on peut rajouter un alcool. Alors moi, je vais vous dire, avec beaucoup de chauvinisme et beaucoup de fierté, mettez des jurançons, c'est
bien sûr, je vous vois bien venir. Olivier Pouls.
Il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit, ce sont des mets d'exception. Ça doit rester des mets d'exception. Malheureusement, ça ne l'est plus forcément.
Justement, sur le saumon, c'est bien, vous m'aidez à vous en parler, parce qu'il y a tellement de mauvaises choses sur le saumon. Regardez bien les intitulés sur le saumon. Salé au sec, par exemple, ça veut dire qu'il n'aura pas été injecté de saumure, parce qu'aujourd'hui, on injecte une saumure dans le saumon pour gonfler les chairs.
Ça les gonfle,
et ça, c'est
et
dégueulasse.
C'est pas bon.
Et puis, fumer au bois d'œufs, être souvent, c'est ce qu'il faut choisir. Par exemple, ça veut dire que le poisson a été aromatisé au vrai bois et pas à la fumée liquide. Donc, regardez bien ces choses qui sont écrites sur les saumons.
Et acheter du bio ou du label rouge, parce que là aussi, c'est la garantie que les saumons ont été élevés dans des conditions, on va dire, un peu plus intéressantes.
Ne bougez pas, à la table des bons vivants, on n'est pas avare de conseils pour le 31. On va vous donner des astuces et des recettes pour réveillonner sans se ruiner dans un instant. La table est mise. Michel Guérard sera avec nous d'ici quelques instants. Vous êtes bien sur Europe 1. A tout de suite, les amis.
Europe 1. Et seul, vous ne l'êtes pas sur Europe 1. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'idées de dernière minute pour Nouvel An, écoutez bien Laurent Mariotte et ses spécialistes. C'est à la table des bons vivants que vous saurez tout.
Astuces, conseils, recettes avec Yves Candebordes et Olivier Pouls. Nous sommes là pour vous servir un beau dîner du 31 chic et pas cher. On a quatre ingrédients en fait pour vous donner des idées de dernière minute. Des produits festifs et bon marché, le tarama, les œufs de poisson, le boudin blanc et le magret. Alors on va commencer justement par le tarama qui est galvaudé vraiment par les industriels avec sa couleur rose fluo. Il n'a le tarama que de nom, on est d'accord Yves Candebordes.
Le tarama que de nom, le tarama c'est très simple, c'est sans colorant,
ben oui,
sans conservateur et le pourcentage d'œufs de cabillaud qui doit pratiquement arrivé à 70%.
Ce sont des œufs de cabillaud qui sont blancs déjà à la base, effectivement. Et le tarama, c'est des ingrédients hyper basiques. Hein. Ce sont les œufs de cabillaud, de la mie de pain et du lait. Et c'est tout.
C'est tout.
On peut aussi penser aux œufs de poisson hein, pour le réveillon du jour de l'an. Et dans la famille des œufs de poisson, je ne demande pas le caviar qui monte à des prix de luxe, mais plutôt les œufs de truite. Ça, ça marche toujours bien, je trouve,
alors...
pour accompagner, par exemple, des blinis ou mettre un petit peu de relief sur un tarama aussi.
Une cuillère à café d'œufs de truite, juste pour faire l'entrée, la mise en bouche. Ça vous coûte pas cher, c'est merveilleux.
Ça c'est beau, puis il y a une belle lumière, il y a cette belle couleur orange avec la transparence.
C'est très délicat en plus, et on trouve en France des élevages de truites bio, là pour le coup, qui font des œufs de truites de très belle qualité. C'est très délicat, c'est un très beau mets.
Alors moi, il y a un produit que j'adore pour les fêtes et pour le réveillon, c'est le boudin blanc. Je trouve que c'est un produit qu'on a un petit peu mis de côté, qu'on a oublié, un bon boudin blanc. C'est amusant parce qu'au Moyen-Âge, c'était un plat déjà festif, le boudin blanc, c'était juste de la mie de pain avec du lait et de la graisse. C'est plus tard qu'on a vraiment mis des matières nobles comme un bon cochon bien élevé à l'intérieur. On peut y mettre aussi également du veau. Il y a le boudin blanc de Rethel dans les Ardennes qui est magnifique, sans mie de pain comme ça, uniquement avec des cochons bien élevés. Vous aimez le boudin blanc, Yves Candebord ?
Ouais, le boudin blanc, c'est pareil, c'est le plat par excellence de fête. Chez nous dans le sud-ouest, on ne les fait qu'à la fin de l'année. C'est justement, étant donné qu'on en a envie, on bave déjà en les voyant arriver. Et le boudin blanc, pour le choisir, il faut qu'il ait une belle odeur. Une belle odeur, une belle brillance, une jolie couleur très franche. Il faut savoir aussi, Laurent, qu'il y a des boudins blancs de veau d'exception.
Oui, absolument. Alors, je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de le cuisiner, mais vous ne savez pas trop comment faire. Alors, on a une question, justement, au téléphone. Bonjour, Céline.
Bonjour.
Oui, on vous écoute. Vous aimez le boudin blanc, à la base ?
J'aime beaucoup le boudin blanc. Ah. Et j'avais une question à propos de la cuisson du boudin blanc, plus exactement. Parce que moi, je cuisine soit à la poêle, soit à bouillie. Et je voulais savoir, parce que j'ai un problème, ça éclate souvent, et je voulais savoir s'il fallait le piquer avant de le cuire.
Ah non, on ne pique pas le boudin
non,
blanc.
On ne le pique surtout pas. Alors si vous le faites pocher, Céline, il ne faut pas qu'il y ait d'ébullition. C'est-à-dire que vous allez le mettre, quand l'eau se met à bouillir, vous la sortez de votre feu, vous déposez le boudin blanc dedans, et vous laissez, j'ai envie de vous dire, infuser tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et après, si vous voulez le faire rôtir, un peu d'huile, une noix de beurre, et on va le rôtir aussi tout doucement, tout doucement. Mais ne le piquez pas, surtout. Si vous le piquez, instantanément, il va s'ouvrir.
Puis il aura plus de
goût.
Sinon, on peut le couper en rondelles et on fait poêler les rondelles directement dans un petit peu de matière grasse.
Ça marche aussi. Avec ça, on peut faire des petits toasts pour le réveillon en mettant un confit d'oignon par-dessus, une brunoise de pommes. C'est très agréable,
une petite pique, et hop, c'est parti.
C'est bon pour vous, Céline ?
Merci beaucoup, oui, c'est bon.
On ne pique pas le boudin, c'est vraiment la bonne résolution de 2019.
Et la saucisse non plus.
On vous embrasse, Céline. Un autre produit pour les fêtes, et c'est le plat préféré des Français, c'est le magret de canard.
Oui, le magret de canard. Magret de canard, c'est un produit, c'est des Français et des gars du Sud-Ouest. Le magret de canard, il faut le choisir. Français, fermier, le label rouge. Attention Laurent, des magrets de canard qui ne dépassent pas les 500 grammes. Parce qu'après sinon, ça, c'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. Et l'important, c'est qu'il ait une couleur rouge foncé.
C'est ça, bien rouge foncé. On compte quoi un magret pour deux ?
Oh, deux, voire trois, si vous avez fait un repas où il y a différents plats avant. Vous pouvez faire 3, voire 4, Laurent. Parce qu'un magret de canard de 500 grammes, si vous servez 120 grammes par personne, vous faites quand même 4 jolies portions.
On rappelle les règles de cuisson. On commence côté pot, en l'ayant bien quadrillé, pour que le gras fonde.
Ce qu'il faut, Laurent, c'est que si c'est un magret de canard qui est vraiment charnu, il peut y avoir un peu d'excès de graisse. Il ne faut pas avoir peur de retirer légèrement un peu de graisse. Et après, de le quadriller avec une pointe de couteau. Et on commence dans une poêle ou dans un sautoir, côté graisse. On va bien la caraméliser,
8 minutes.
Bien la rôtir. Il faut entre 7 et 8 minutes. Et après, on le retourne et on le passe dans un four en mettant une pointe d'ail, un peu de thym, un peu de laurier pendant 4-5 minutes. Et après, on le sort et on va le laisser tirer.
Et oui, que le jus se répande à l'intérieur.
Ça se repose. Laurent, il faut savoir que pour une viande, elle a besoin autant de repos que de temps de cuisson.
C'est ça,
c'est une règle qui est indispensable à la qualité.
L'éternelle question qu'on nous pose, c'est comment on fait pour que ça soit servi chaud quand même, cette histoire. Donc on laisse reposer au coin du feu.
On laisse reposer à température ambiante et après, avant de servir, on y repasse un peu au four. Pour redonner un coup de chaleur.
Et puis essayez, vous enlevez la peau, vous essayez un tartare de magret de canard. C'est absolument magnifique.
Ça, c'est vrai que c'est osé, mais c'est vrai que c'est délicieux. Eh bien, merci messieurs. Restez avec nous, nous allons accueillir pour l'occasion une légende de la cuisine, Michel Guérard. Le chef triplement étoilé d'Eugénie Les Bains dans les Landes sera avec nous. Et nous verrons, vous allez entendre, qu'on peut se faire plaisir et du bien à la fois. A tout de suite sur Europe 1.
À la table des bons vivants, on adore recevoir des invités. Et justement, Laurent, aujourd'hui, on va se régaler avec un grand chef.
Et oui Justine, c'est avec grand plaisir et bel appétit hein, que nous recevons un des plus grands chefs français à la table des bons vivants. Après avoir commencé comme pâtissier dans les années 50, il s'installe comme cuisinier à Asnières en 1965 avec son restaurant Le Pot-au-Feu. C'est une adresse qui devient une institution de la gastronomie parisienne. C'est là qu'il commence à mettre au point cette fameuse nouvelle cuisine. Il s'installe en 1974 avec sa chère épouse Christine dans la station thermale d'Eugénie-les-Bains. C'est l'endroit idéal vraiment pour conjuguer une cuisine généreuse avec une cuisine minceur. Son restaurant Les Prés d'Eugénie, les amis, détient 3 étoiles au guide Michelin depuis plus de 40 ans. Michel Guérard est notre invité. Bonjour Monsieur Guérard.
Bonjour chers amis, mais quel accueil. Mais je rougis de confusion.
Mais
je ne sais plus où mettre.
On est tellement heureux de vous recevoir. Je vais vous dire la vérité, avant de vous recevoir, j'ai fait un petit tour de table avec mes camarades Olivier Pouls et Yves Candebordes. Et on s'est dit, on est tous allés chez Michel Guérard, oui. Eh bien, on a tous en souvenir chez vous à un moment unique, suspendu dans le temps, et un moment d'une jeunesse incroyable. C'est-à-dire qu'on a tous passé un moment qui est resté gravé dans nos mémoires. C'est ça le rôle d'un grand cuisinier aubergiste comme vous l'êtes.
Oui, mais vous savez, on fait un métier extraordinaire entre nous. C'est un métier où on reçoit des gens, on fait tout pour leur plaisir, on peut échanger. C'est surprenant parfois des hommes politiques que nous recevons dont on aurait tendance à... Enfin, qui sont sévères, qui sont... Voilà. Et dès qu'ils arrivent, on se rend compte qu'on peut échanger et ils sont heureux d'échanger parce qu'ils viennent passer un bon moment. Donc, quel beau métier, non ?
Quel est votre goût de la semaine alors, Michel Guérard ? Le goût qui a marqué votre semaine ?
Alors, le goût de la semaine, j'en ai plusieurs. Hier soir, j'étais invité dans un restaurant où j'ai éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un restaurant qui s'appelle Joya.
C'est le nouveau restaurant d'Hélène Darroze.
Oui. Et j'ai passé un moment de plaisir extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'interprétation du restaurant tel qu'on se le représente quand il s'agit d'aller à la recherche d'un moment de joie. Parce qu'un restaurant, c'est un théâtre entre nous.
Exactement.
Et ce restaurant-là est un théâtre. Voilà, il y a des tables comptoirs, il y a des tables basses avec des grands canapés, il y a une cheminée, il y a plein de gens qui sourient, qui chantent. C'est merveilleux.
Michel Guérard, on prépare le réveillon. Quel est votre truc, tiens, vous, quelle est votre astuce pour passer la soirée avec vos invités sans être au fourneau tout le temps ? C'est vrai que c'est une question que les auditeurs se posent. On a envie de profiter des gens qu'on invite et pas d'être forcément toujours en cuisine.
Je me réjouis, par exemple, d'un gigot d'agneau de lait.
Eh bien oui.
Avec un gratin dauphinois.
Et ça se prépare à l'avance.
Mais bien sûr, parce que Yves en parlait tout à l'heure, les cuissons qui doivent se détendre. Mais le gigot d'agneau de lait, je pense qu'on peut le faire. Et je l'avais fait un jour où j'avais reçu, c'était Jean Troisgros et Paul Bocuse. Mais il y a de ça des décennies et des décennies. Je tremblais de partout, ils venaient manger à la maison. J'avais fait un gigot. Et ils ont eu un accident bénin d'automobile, mais enfin qui les a retardés de 2 heures. J'aurais servi le gigot, et le gigot, c'était la perfection. Et
oui.
Il avait attendu.
Il s'était détendu. Et une belle cuisson uniforme.
Uniformément rosée et tendre.
Et ben voilà, le conseil de Michel Guérard, laissez du temps au temps. Bientôt midi sur Europe 1. Alors avant de retrouver les conseils de Michel Guérard tout à l'heure pour bien réveillonner, c'est l'heure de retrouver un autre bon vivant. C'est l'ami Jean-Luc Petit-Renaud qui fait partie de notre bande, Michel. Et avec le nouvel an, vous pensez bien qu'il a des envies de fruits de mer, comme beaucoup d'entre nous. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Et salut mes bons vivants. Oh, je vous sens déjà prêt à en découdre. Avec la grande compétition de la Saint-Sylvestre. Et justement, je voulais vous parler de ce fameux plateau de fruits de mer. Alors là, on s'est installé au Petit Clair, rue Clair, en plein 7e arrondissement, parce que j'adore cette rue piétonne avec ce poissonnier. Alors le principe est simple, vous allez commander votre plateau de fruits de mer, et puis vous vous installez en terrasse, vous buvez votre petit coup de blanc, pendant que vous voyez en face s'échafauder toute cette belle histoire de la Saint-Sylvestre. Et lorsque ce plateau est terminé avec presque l'essentiel de tous les crustacés, les coquillages, on va planter les langoustines par-dessus, complètement en haut. Et là, subitement, ça prend un côté festif. Le plateau est ébouriffé, il y a des paillettes partout. Il y a toujours ces petits bulots qui se cachent un peu au fond d'une coquille. Il faut la pique pour le déloger. Et puis lorsque vous l'avez saisi et que vous tirez dessus, subitement, comme ça se termine par un petit ressort, en général, vous êtes aspergé de la tête aux pieds par l'eau de mer. L'araignée retient tout dans ses petites patounes. Il en va de même pour le tourteau. Il faut gratter l'intérieur. faire ce qui se mange, ce qui se mange pas. Les petits bouquets avec lesquels on s'essuie presque les doigts parce qu'on grignote avec les pattes sans les pattes, avec la carapace sans la carapace. Et après avoir usé toutes ses forces avec ses petits crustacés, on arrive au homard. Et là, eh ben on n'a plus faim. Moi, je retourne chercher mon plateau parce que j'ai envie d'arriver chez moi comme un héros avec un joli papier cellophane autour, un peu comme celui qui aurait gagné l'étape de la Saint-Sylvestre.
C'est beau. Une belle étape, celle de la Saint-Sylvestre. Merci Jean-Luc Petit-Renaud qu'on retrouve tous les samedis à la table des bons vivants. Quel est votre coquillage préféré en cette période de fête, Michel Guérard, là, il les a tous mis en revue. Le bulot, le bigorneau,
l'huître. Oui, moi je les aime tous, même les plus modestes. Y compris la moule,
oui,
qui peut être préparée de mille façons.
Qu'est-ce que c'est bon,
et qui révèle des plaisirs simples mais formidables.
Mais pas de réveillon sans fruits de mer, on est d'accord.
Tout à fait. Hein? Enfin, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui.
Voilà. Oui,
bien
oui.
Sûr.
Vous n'êtes pas vegan encore, Michel Guérard.
Non, et je crains que ça ne vienne pas encore dans les mois qui viennent.
Bon, mais très bien. On se retrouve après la pause avec la chronique d'Yves Condebordes. Et puis, Michel Guérard nous donnera ses conseils pour faire rimer générosité et légèreté pour le réveillon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et ce qui fait du bien aussi, c'est que jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Laurent Mariotte pour votre rendez-vous gourmand, la table des bons vivants sur Europe 1. Et n'oubliez pas, vous pouvez participer au 39-21, 50 centimes la minute.
Absolument Justine, la bande des bons vivants est rassemblée autour d'un grand nom de notre gastronomie, c'est le délicieux Michel Guérard qui est notre invité. Tout se passe bien Michel Guérard?
Oh très bien, surtout on vous a mis... quand on m'appelle délicieux, je suis aux anges.
Et ben, vous savez que c'est le mot que tout le monde utilise pour parler de vous. On a eu Alain Ducasse à cette table, nous avons eu Roselyne Bachelot qui est votre amie aussi.
Ah oui.
Et nous avons eu Pierre Arditi qui fait partie de vos amis. Et tous les trois, quand on a parlé de vous, ils ont dit ce mot, il est délicieux. Ça vous correspond bien, franchement.
Ben, je suis très touché.
Vous faites partie du trio avec Paul Bocuse et Roger Verger qui a établi les codes de la nouvelle cuisine avec le guide Goemio, c'était dans les années 70. C'était une cuisine, et c'est toujours une cuisine plus proche des produits et beaucoup moins lourde. C'est comme ça qu'on peut la résumer, cette nouvelle cuisine.
C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. La nouvelle cuisine, c'était pour certains dont je faisais partie, un espèce de ras-le-bol, de l'obligation de, quand on travaillait dans une brigade, on était au poisson, le chef vous disait le matin, eh bien ce midi, c'est des filets de sole Joinville, c'est du turbo amiral, point final. Mais on n'avait surtout pas le droit de la ramener. Et c'est ce phénomène de ras-le-bol, qui, perçu comme tel en tout cas à quelques-uns, qui nous ont amenés à devenir les gilets jaunes de la cuisine.
C'est ça, Yves Condebordes.
C'est grâce à eux, c'est grâce vraiment à eux que toute ma génération, on est devenu cuisinier. Parce que c'est vrai que le métier de cuisinier était un métier qui était assez fermé, c'était en vase clos. On n'avait pas le droit de réfléchir, on n'avait pas le droit d'être différent. Et grâce à eux, on est ce qu'on est aujourd'hui. On vit encore l'évolution de ce métier avec toutes les barrières des serveurs sont tombées. Il ne faut pas l'oublier, c'est grâce aux années 70. Ce n'est pas grâce aux années 90 ni 2000. Et ils nous construisent pour le lendemain.
Et oui, et puis cette nouvelle cuisine qui était là pour alléger Michel Guérard, alors qu'on est en France avec l'art des sauces, la cuisine française c'est l'art des sauces, on aurait pu se dire qu'on allait se couper un petit peu de cette générosité et puis de cette gourmandise qui est la cuisine française, et pas du tout, vous avez prouvé le contraire à Eugénie Lesbains avec votre amusement autour des sauces en permanence. Vous avez d'ailleurs fait une première association avec la vinaigrette et le foie gras il y a très longtemps.
Oui, tout à fait, oui.
Quelles sont les sauces que vous avez aimé vraiment composer?
Moi j'aime toutes les sauces, je suis un homme à sauce, mais on peut trouver des astuces pour enlever un maximum de calories. On remplace le beurre par du lait concentré que l'on fouette, que l'on monte et qu'on ajoute au jaune que l'on a émulsionné, et on a quelque chose de très proche de la sauce béarnaise, mais de nouveau. C'est ça qui est intéressant. C'est cette réinvention que l'on peut faire de la cuisine française.
Alors nous aussi, on aime la nouveauté. Et Yves Condebordes va vous le prouver. Vous allez voir, Michel Guérard, chaque semaine, un membre des bons vivants teste une nouveauté à la casserole. Et là, aujourd'hui, il veut nous mettre tous à l'eau pétillante pour le réveillon du 31. C'est ça, vous avez une machine qui nous permet de faire son eau gazéifiée soi-même. C'est ça, mon bon Yves?
Totalement, Laurent. J'ai une machine qui permet de faire l'eau soi-même. Mais surtout, j'ai une machine qui me rend service. Parce que c'est une machine qui me fait pas mal au dos, Laurent. Et ça, c'est très important.
Pourquoi?
Les reins. Mais parce que j'ai plus les packs d'eau à monter.
Ah oui.
J'ai plus mes packs d'eau gazeuse à monter.
Et le sport.
Mais le sport comme ça, j'aime pas trop quand même. Non, c'est une machine assez étonnante. C'est une machine qui fait de l'eau gazeuse. C'est très simple. C'est de l'eau, une carafe, une cartouche de gaz, une pression. Et j'ai mon eau gazeuse.
Et donc on fait une eau gazeuse naturelle. On peut choisir la taille des bulles.
C'est tout l'intérêt. Il y en a qui aiment les grosses bulles. Moi j'aime l'eau de gazeuse qui est tout en finesse.
Oui. Vous n'avez pas des moitiés de bulles comme dirait des moyennes bulles comme dirait de finesse dans un restaurant.
C'est exactement ça.
Des petites bulles.
C'est exactement le geste qu'il faut faire. Mais c'est une eau qui est gastronomique. Voilà, j'aime pas l'eau qui est très pétillante, qui est agressive pendant un repas. J'aime quand elle est légère. Quand voilà, qu'il y a ces petites bulles,
la petite finesse, oui,
petite finesse, tout en finesse, et c'est merveilleux. L'idée, c'est de l'utiliser pour l'eau gazeuse et de réfléchir un peu et de se dire, le 31 arrive. Vous savez, quand on fait l'apéro du 31, on a tendance à penser à bien mettre le champagne au frais, n'est-ce pas, Olivier, à préparer les toasts.
Mais oui.
Des fois, on oublie un peu les enfants, ou alors on va acheter un peu un champomis de base, pas très agréable. Là, ça nous permet de faire une boisson pour l'apéritif, pour les enfants, qui est originale, qui est totalement nature, qui a du goût. Et qui est surprenante. Je vais vous faire voir. Donc, j'ai mis dans ma carafe.
Oui.
Alors, j'ai pris des kiwis, d'où Laurent.
Bah, de la Dour, forcément, on en a parlé il y a 15 jours. Vous pensez bien.
Des kiwis des Landes, donc, que j'ai épluchés. Alors, l'important, c'est acheter des kiwis qui sont bien mûrs.
Oui.
Parce que là, justement, quand ils vont être bien mûrs, ils vont être gorgés de sucre. Je les épluche, je les mets dans une centrifugeuse ou alors dans un robot. Je les mixe totalement. J'ai un jus de kiwi. Ce jus de kiwi, je le mets dans ma carafe. Je rajoute dessus de l'eau. Je mets dans ma machine magique, je fais une pression.
Voilà.
Écoutez ça.
Je fais de la science-fiction.
Deux pressions. Et là, je vais sortir ma limonade de kiwi. Et c'est génial parce que vous allez voir la couleur.
Ah non, là, c'est vraiment du fait maison. Ah, c'est
regardez,
super.
Regardez.
Ah oui, incroyable. Ah ben forcément, ça mousse. C'est de la limonade.
Regardez ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir. Regardez, c'est beau.
La couleur est magnifique. Non, sérieusement.
C'est totalement naturel. Il n'y a pas un gramme de sucre ajouté. Vous allez voir, je vais le faire goûter à M. Guérard parce que c'est lui quand même l'expert.
Eh bien oui, il va nous dire.
Mais pour les jeunes, je trouve ça génial. À la saison des fraises, on le fait avec les fraises.
Oui, non mais c'est super, c'est une très belle idée. Et au moins, on a des choses sans conservateur, sans sucre ajouté et sans cochonnerie. Michel Guérard ?
Ça, c'est une bonne idée. C'est surprenant. On est dans la fraîcheur.
Dans la fraîcheur.
Dans, le,
voilà, dans la pureté.
Dans la pureté.
Voilà. Alors, c'est une machine qui coûte environ 130 euros.
Oui.
Et pour finir...
Oui.
Il y a une petite astuce.
C'est vite amorti en même temps, parce que ça remplace les bouteilles d'eau au supermarché. Ouais.
Et le soir du 31, un dessert express, une boule de glace citron, dessus, des ananas coupés en morceaux, on le présente devant les enfants, on verse l'eau de kiwi gazeuse, et là, la magie s'opère.
Ah oui, un joli dessert.
C'est un joli dessert, c'est tout en légèreté,
tout
en fraîcheur.
C'est digeste.
C'est original. Oh.
Et vous n'êtes pas d'accord, Michel Guérard, il est prêt pour ouvrir un restaurant, Yves Condebord. Depuis le temps qu'il essaye, il faut s'y mettre quand même, franchement.
Bon, en revanche, si vous mettez du vin blanc dans votre machine, ça ne fait pas du champagne. Hein.
Non, ça fait du blanc limé, sans sucre.
Oui, c'est ça,
c'est pas mauvaise idée.
Merci Olivier Pouls, absolument. Alors ne bougez pas les amis, nous sommes bien ensemble à la table des bons vivants. Et nous allons tout à l'heure nous mettre à table avec le plat du jour pour le réveillon. Et pas n'importe lequel, ce sera le vôtre, Michel Guérard. Marion Sauveur est allée chez vous à Eugénie-les-Bains et vous allez nous donner les secrets pour réussir un pancake soufflé de crevettes grises et de langoustines. Ne bougez pas, on revient juste après les titres du journal de la mi-journée. A tout de suite sur Europe 1.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous retrouver. Il est midi et depuis 11h, nous vous donnons des idées et des conseils pour bien réveillonner. On a parlé des huîtres, du saumon fumé, du foie gras, du boudin blanc. Et on vient même de tester avec Yves Condebord une, j'allais dire limonade, mais non, mais une boisson pétillante naturelle avec du jus de kiwi.
Et c'est très bon.
Qui est très très bonne. Pour les enfants, c'est parfait, plutôt que des sodas avec des sucres ajoutés, des conservateurs et des cochonneries. Alors, depuis le début, depuis 11h, Yves Condebord, Olivier Pouls et Marion Sauveur sont à mes côtés. Michel Guérard, le chef 3 étoiles des Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains dans les Landes, est notre invité. Eh bien, c'est le moment de passer à table avec vous, Michel Guérard, parce qu'on a très envie de savoir ce qu'on va manger chez vous au menu du réveillon du 31, parce que je sais que vous n'aimez pas du tout refaire la même chose d'une année sur l'autre. Vous aimez inventer à chaque fois des nouveautés pour le réveillon. Alors, à quoi il va ressembler le réveillon du 31?
Tout ça, tout ce que vous dites est conforté par mes deux filles.
Oui.
Qui m'impose.
C'est ça.
Un numéro nouveau à chaque nouveau réveillon. Alors, l'année dernière, par exemple, elles m'ont demandé de faire quelque chose sur l'Argentine, ce qui n'est pas évident entre nous. Hein.
Ouais.
Mais enfin, on s'en est dépatouillé très bien. L'année d'avant, c'était plus facile, c'était Venise, enfin, etc. Et cette année, elles m'ont demandé de faire quelque chose autour de l'Écosse. Donc, c'est ce que j'ai appelé le Highlands Grill. My English is good. No?
Yes, very good. Perfectly. Perfectly.
Alors, je fais un mélange de choses rôties, un peu d'agneau, des Pyrénées, le gigot et les côtelettes. À côté, je mets de la grosse, rôti, de la jeune, hein, faut se méfier. Hein.
Mais c'est puissant en goût.
C'est comme les...
Oui,
les
c'est, voilà, c'est du gibier, un gibier à plumes.
Il ne faut pas qu'elle ait trois semaines. Hein,
oui, c'est le poule faisane.
Exactement.
Voilà, il faut qu'elle vienne d'être tuée. Hein. Et puis, j'ai, à côté, je mets un morceau de homard. En fait, je me suis posé la question, est-ce que je fais du haggis, vous savez?
Oui, la panse
la
de brebis farcie.
Oh là, farcie.
Ça passerait, ça, au 31?
Pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'on met dans le boyau.
Moi, je pense, fait par Michel Guérard, ça passera.
Oui, c'est ce que j'allais dire, tout passe avec Michel Guérard. Alors, pour déguster un des beaux plats que vous allez faire dans ce menu festif de Réveillon du 31, nous sommes allés vous voir à Eugénie-les-Bains. Marion Sauveur était chez vous il y a quelques jours, Michel Guérard, pour cette fameuse recette de pancakes soufflés aux langoustines, au Saint-Jacques et autres petites merveilles. Vous avez passé un bon moment, Marion?
Oh que oui, hein, j'ai passé un très bon moment en cuisine, aux côtés de vous et aux côtés de votre chef de cuisine, Hugo Souchet.
Hugo, oui.
Oui, c'est ça. Alors, on a réalisé ensemble deux pancakes bien moelleux, parce que c'est très important dans cette recette. Vous allez voir pourquoi. Avec un effet bien mousseux, donc garni de plein de produits de la mer et avec une sauce juste sublime, délicieuse.
Alors voilà, écoutez, si vous voulez faire du Michel Guérard au réveillon du 31, écoutez bien, on vous mettra la recette sur notre site europe1.fr en direct des cuisines d'Eugénie-les-Bains.
Le pancake, c'est une crêpe un peu rustique. Alors nous, on va faire en sorte qu'elle soit élégante. Hugo, notre chef de cuisine, va nous montrer ça. Il réussit ça très bien.
Alors on part d'une base de crêpe et en fait, ce qui va surtout changer et ce qui va donner de la légèreté, c'est qu'on va y ajouter des blancs d'œufs.
Là, on voit le bec d'oiseau, donc les blancs d'œufs sont prêts.
On va les rajouter dans l'appareil à crêpes maintenant. Et comme ça, on va tout de suite cuire les crêpes le plus rapidement possible.
Pour la rendre encore plus mousseuse, on va la cuire que d'un côté.
C'est vraiment à peine coloré. Alors une fois que le pancake est prêt, il faut avoir décortiqué ses langoustines, ouvert ses Saint-Jacques, juste blanchi son écrevisse. On va juste faire revenir nos carcasses dans du beurre. On va rajouter notre garniture, donc l'armagnac et un peu de vin blanc. Et dès que c'est bien réduit, et ben vous rajoutez votre crème. Et là, vous laissez cuire une dizaine de minutes et ce sera bon.
Si on n'a pas tous ces crustacés à la maison,
choisis des Saint-Jacques ou un autre poisson.
Une fois que la sauce est prête, on a taillé tous nos crustacés. On met un tout petit peu d'huile. On a les écrevisses qui ont bien rougi.
C'est parfaitement cuit là, vous voyez.
Là, on met notre pancake dans le fond de l'assiette. Et on va tout simplement le remplir de notre petit mélange.
On va remettre de la sauce.
Pour le réhumidifier. On lui met son petit chapeau, donc le deuxième pancake.
Allez,
je goûte.
Franchement, c'est bon.
On a ce côté moelleux, effectivement, du pancake. Ça. On a le craquant, en fait, des crustacés.
Oui, puisque... oui, mais c'est ça. Il faut qu'il soit cuit à la perfection, comme ça.
La sauce, elle apporte beaucoup au plat.
Bah, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce.
Ah, les sauces, on en parlait tout à l'heure. Ça fait envie, hein, Michel Guérard.
Oui, alors je dirais aussi, on peut le faire d'une manière plus économique, rien qu'avec des moules.
Oui, exemple, mais oui, c'est vrai.
Et ça marche.
On est encore dans la saison des moules de
oui,
Bouchot, par
oui,
exemple.
Tout
c'est,
à fait.
C'est très bien, ça.
Tout à fait.
Faites du Michel Guérard pour le réveillon du 31. On vous mettra la recette sur notre site europe1.fr. Cher Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on boit avec ce joli pancake, comme ça, au coquillage et crustacé?
Bah, écoutez, c'est la période des fêtes, il y a des nobles crustacés, il y a la sauce crémée, on va se faire plaisir. Allons sur un grand vin de Bourgogne, un joli vin de Meursault avec du caractère, avec de l'attention. Je pense que sur les crustacés, c'est un accord magnifique.
Ça vous va, Michel Guérard?
Oh, ah, complètement.
Eh ben, super. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec notre invité. Nous répondrons aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 39-21. A tout de suite pour les préparatifs du 31 sur Europe 1. Ne bougez pas.
Pour ce dernier samedi de 2018, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands à la table des bons vivants en invitant le chef Michel Guérard, n'est-ce pas Laurent?
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Absolument Justine, Michel Guérard est notre invité. Quel invité, un bon vivant et amoureux des bonnes choses qui font du bien au corps et à l'âme. Alors c'est amusant Michel Guérard parce que vous êtes l'inventeur de la grande cuisine minceur et vous rêviez d'être médecin au départ en fait.
D'abord je rêvais d'être curé. Et puis après,
comme Robuchon,
je racontais ça à Pierre Arditi, il était plié en deux. J'aurais rêvé d'être comédien parce que sous prétexte qu'au patronage, je jouais deux, trois petites piécettes et que je me prenais pour, pour Pierre Arditi, tout simplement.
Et puis, belle référence.
Et puis après, oui, j'aurais aimé être médecin, que c'était en seconde, je crois, le programme de sciences naturelles, c'était l'anatomie. Et ça me plaisait. Et puis bon, j'ai pu rien faire parce que comme mon frère, j'ai dû choisir un métier. C'était après la guerre et c'était comme ça.
Oui, mais quelque part, la médecine n'est jamais loin parce que vous régalez et vous soignez à la fois avec ces belles recettes qui sont très équilibrées, très saines.
Le côté sacerdotal, le côté comédie et le côté médecin, on réunit tout ça. Hein.
En cuisine, absolument.
Yves, hein, c'est vrai.
C'est vrai qu'on est un peu acteur. Hein.
On oui, bah, acteurs, bien sûr. Oui.
C'est un joli théâtre avec un beau piano. Alors, d'après un sondage de novembre dernier réalisé par le site Kitok, c'est un site qui propose de livrer des produits frais aux gens pour faire leur propre recette à la maison, 92% des femmes et 75% des hommes ont peur de prendre du poids pendant les fêtes. Michel Guérard, vous qui êtes l'auteur de La Grande Cuisine Minceur, c'est vrai qu'on confond quand même aussi souvent bien manger et trop manger, non ?
Voilà, la quantité, c'est toujours... Voilà, quand on est dans un état festif, on y va, c'est la foire, c'est la kermesse, et bien sûr, on ne prend pas garde à ces pièges de boire 2-3 verres de trop, voire une bouteille ou 2 bouteilles de trop, ça arrive. Donc oui, on peut s'amuser, on peut se régaler sans sombrer justement dans ce genre d'abus.
Alors vous le savez, on aime bien répondre à vos questions ici à la table des bons vivants. Alimentation, recettes, produits de saison, posez vos questions sur le répondeur du 3921 et on vous répond. Et on a une question de Fanny que nous avons rencontrée sur un marché à Paris.
Moi j'avais une question sur le céleri. C'est un légume que j'achète jamais parce que je ne sais pas quoi faire avec. Que ce soit le céleri d'érable ou le céleri branche. Donc j'aimerais bien aimer savoir ce qu'on peut cuisiner facilement avec. Sachant qu'en plus j'ai un enfant de 3 ans, ça m'intéresse.
Ah, le céleri, bah oui, le céleri boule ou le céleri branche. Yves Candebord.
Oui, c'est vrai que c'est deux légumes totalement différents, le céleri
j'adore
boule.
J'adore ça, moi j'adore les deux.
Ouais, les deux sont très bons. Alors il y en a un, mais sur le boule, je dirais le plus simple, c'est faire une purée avec.
Bah oui.
L'éplucher, bien le laver, l'éplucher comme une purée de pommes de terre. Et c'est vrai que c'est soyeux, onctueux. Alors si vous voulez, pour un enfant, peut-être pour lui donner un peu plus de consistance, quand vous allez cuire votre céleri, y rajouter une grosse cuillère à soupe de riz qui va amener un peu plus de liaison, parce que le céleri, c'est vrai que c'est très léger, mais c'est merveilleux.
Et après, le céleri branche.
Moi, je suis partant pour le laisser cru.
Oui, mais voilà. Sur des moules marinières, on parlait des moules tout à l'heure, ça marche très bien.
Exactement,
avec des moules.
Dans une salade, même posé sur un
croquant. Est merveilleux.
Voilà, il y a le croquant qui est merveilleux, un tour de moulin à poivre, ou alors en pickles. Voilà, un petit sirop, mais très léger, une cuillère à café d'eau, un peu d'eau, on fait bouillir, on rajoute un peu de vinaigre, on coupe son céleri branche dedans en rondelles, on le met de côté et ça va accompagner le poisson cru, ça va accompagner les terrines, ça va accompagner beaucoup de choses. On a un petit pickle, ce qui est original pour la saison.
Christophe de Rennes a une question aussi pour les bons vivants.
Bonjour Laurent, bonjour à toute votre équipe et bonjour à tous. Christophe de Rennes, voilà, petite question. Quels sont les fruits et les légumes les plus appropriés pour un lendemain de fête, pour un lendemain de réveillon et peut-être de quelques excès? Voilà. Merci de votre réponse et puis excellente émission et à très bientôt.
Bah, du cru pour un lendemain de cuite, ça peut être bien. Une belle endive crue, ça marche toujours.
Ouais,
ça.
Même, j'ai envie de vous dire, non, de prendre une centrifugeuse, vous savez, ou un extracteur de jus. De prendre des légumes, des fruits, un beau mélange,
oui,
bien pressé.
Ça marche.
Ça marche, ça détoxe, ça nourrit, ça donne de la vitamine et c'est extra.
Et le radis noir. Le radis noir, c'est un super produit de lendemain de fête. Comme ça, en petit carpaccio avec un chèvre sec juste émietté par-dessus, ça peut marcher, Michel Guérard ?
Parfait, je retiens l'idée.
Si
là,
vous validez, alors là...
Laurent, une limonade de kiwi.
Mais aussi, et une limonade de kiwi, vous avez raison.
Je l'ai devant moi.
Oui, ça y est, il l'a placé une deuxième fois.
Alors, nous avons Anna de Douai qui a une question également au 3921.
Bonjour Laurent, je m'appelle Anna, je viens de Douai et j'avais une question à vous poser. Voilà, mon vin est bouchonné et je me demandais ce que je pouvais faire par rapport à ça. Je vous remercie et bonne émission.
Alors là, moi j'ai envie de vous dire pas grand-chose, mais on a le spécialiste Olivier Pouls à notre table.
Ben, malheureusement, effectivement, quand le vin est bouchonné, on ne peut rien y faire. La contamination est telle qu'on ne peut pas la faire sortir. Alors s'il est très très bouchonné, malheureusement, il faut le mettre à l'évier. Si on connaît le producteur, on peut essayer éventuellement de lui retourner la bouteille. Si c'est un vin cher, prestigieux, en général il fait un geste et peut-être il vous la remplacera. C'est même pas bon pour faire de la cuisine parce que ce goût de bouchon, ben, on va le retrouver à un moment dans la sauce si on l'utilise. Donc malheureusement, c'est l'évier.
Et ben voilà, c'est poubelle. Ben voilà la réponse. Oui. Alors on continue à parler de vin, mais de bon vin dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Et nous découvrirons Michel Guérard à travers ses grandes émotions culinaires. Ce sera juste après la pause avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et en parlant de vin, ça y est, il est midi 19, Laurent, c'est la dernière ligne droite, la table des bons vivants va bientôt être débarrassée. Mais alors attendez, on doit encore en apprendre un peu plus sur Michel Guérard.
C'est le dernier quart d'heure à la table des bons vivants, absolument, Justine. Michel Guérard, le chef des prés de génie à Eugénie-les-Bains dans les Landes, est notre invité. Alors Michel Guérard, on le disait tout à l'heure, vous avez initié le mouvement de la nouvelle cuisine dans les années 70, mais vous avez aussi enseigné les bases de votre cuisine à une belle génération de chefs. Je vais donner quelques noms pour que les auditeurs se rendent compte quand même de la transmission que vous avez faite avec tous ces jolis noms. Alain Ducasse, Michel Troisgros, Sébastien Bras, Daniel Boulu à New York, Michel Sarran, Christopher Coutenceau à La Rochelle. Tous ces grands noms de la
c'est
cuisine d'aujourd'hui. C'est
cuisine.
Le botin mondain de
oui,
la cuisine.
On peut ajouter Arnaud l'Allemand.
Vous êtes fier de cette belle transmission?
Le mot fier convient peut-être pas tout à fait, mais heureux d'avoir pu développer chez des jeunes gens qui étaient doués, parce que bon, le maître a de l'apprentissage, d'accord, mais si le gamin il n'est pas doué et il n'a pas quelque ambition, il ne se passe rien du tout. Voilà, oui, c'est toujours agréable de les conserver comme ça. C'est mes enfants ou mes petits-enfants. Et ça, c'est vrai, ça permet de retarder le vieillissement.
Et ça, donc, on peut vous faire confiance. Ben, on voit que c'est une bonne méthode parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous, Michel Guérard. Bien manger, c'est important. Bien boire aussi, c'est important.
Ah,
vous êtes
oui,
d'accord?
Bien
hein
sûr.
Alors
bien
justement,
sûr.
C'est l'heure des deux minutes du vin de notre camarade Olivier Pouls. Le réveillon du jour de l'an approche. La tradition, c'est vrai, Olivier Pouls, c'est de mettre du champagne au milieu de la table.
C'est vrai qu'on aime le champagne à Nouvel An, mais encore faut-il savoir le choisir.
Alors justement, qu'est-ce qu'on choisit? Parce qu'on hésite toujours entre les grandes marques, les noms des grandes maisons qui sont un petit peu rassurants et puis des vignerons, des artisans comme ça qui proposent des champagnes plus typés peut-être.
Oui, c'est les deux grandes familles. Alors, les grandes maisons, hein, c'est 70% des volumes de la champagne, sont les marques qu'on connaît. L'avantage, c'est que ce sont des champagnes qui ont un goût, on va dire, régulier et un goût assez typé. Oui. Voilà, il y a le goût chez Bicard Salmon, il y a le goût chez Bollinger, il y a le goût chez Paul Roger et d'année en année, quelle que soit la bouteille qu'on va prendre et où qu'on la prenne d'ailleurs, elle a le même goût. Et puis en face, vous avez les vignerons qui en général travaillent leurs propres raisins, qui ont peut-être un petit peu moins de régularité dans la manière dont ils présentent leur cuvée, mais en tout cas qui ont parfois un peu plus de caractère aussi. Ce sont des champagnes en général qui sont plus inscrits dans leur terroir. Mais vous verrez qu'en termes de prix, il y a aussi une différence. C'est moins cher en général d'aller chez un vigneron.
Qu'est-ce qu'on choisit justement? Il y a les extra bruts, les blancs de blanc, les non dosés. Comment se repérer parmi toutes ces informations?
Bon, on va essayer de faire très simple. Alors un blanc de blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un champagne issu uniquement du cépage Chardonnay. Il y a trois grands cépages utilisés en général en champagne. Le Chardonnay, le Pinot Meunier et le Pinot Noir. Le Chardonnay donne des champagnes plus délicats, plus floraux, un peu plus crémés d'ailleurs. Alors que le Pinot Noir et le Pinot Meunier donnent des champagnes plus musclés, qui en général marcheront mieux d'ailleurs avec le repas. Alors vous parliez de brut, extra brut, non dosé, brut zéro, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Ça concerne le taux de sucre qu'on va mettre dans la bouteille de champagne au moment de son expédition, ce qu'on appelle le dosage.
La liqueur, on met une liqueur.
La liqueur d'expédition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode c'est d'en mettre de moins en moins. Oui. Attention, les non dosés, les extra bruts, etc., ça donne des champagnes qu'on dit très tendus, avec une acidité généralement un peu plus marquée. Tout le monde n'aime pas ça. Donc c'est un champagne, on va dire, peut-être pour les gens un peu plus initiés. Et puis on peut terminer avec les millésimes. Voilà, le millésime, c'est uniquement un seul et unique millésime qu'on va trouver dans une bouteille de champagne, contrairement aux autres, qui sont des assemblages de terroirs, de cépages et de millésimes.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Alors là, je vous ai apporté un champagne de vigneron, c'est la maison Tarlan. Mmh. C'est un chardonnay, donc un blanc de blanc.
Ah, c'est bon ça.
C'est un champagne qui est extra brut, donc qui est dosé à moins de 5 grammes. Je crois qu'il est dosé aux alentours de 3 grammes. Et bah oui, parce qu'il a passé quelques années dans ma cave. Et ça aussi, c'est une démonstration intéressante. Les grands champagnes peuvent vieillir.
Olivier Pouls, combien on met dans une bouteille de champagne là, pour le réveillon?
Alors, chez un vigneron, on va dire entre 15 et 25 euros, on trouve des choses vraiment très bien. Dans une maison, c'est un petit peu plus cher, 23, 24 euros, jusque 40. On oublie les champagnes vendus en cette fin d'année en promotion à moins de 10 euros la bouteille. Franchement, c'est généralement très mauvais.
Eh bien, on oublie tout ça. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Ça y est, les amis, il est maintenant temps de faire encore plus ample connaissance avec notre invité, Michel Guérard, grâce au questionnaire des bons vivants. Vous êtes prêt, Michel?
Bah, je vais essayer.
En route. Quel est le goût de votre enfance, Michel Guérard?
C'est ma grand-mère qui cuisinait divinement bien et qui pâtissait peut-être encore mieux. Et elle prenait des fruits très mûrs et puis elle mettait ça sur une pâte et puis avec un peu quelques copeaux de beurre sur les fruits et puis un peu de sucre et au four. Mais, et là, c'est là toute l'astuce et c'est pour ça que je dis qu'elle était quand même extraordinaire. Les fraises, par exemple, dans lesquels il y a beaucoup d'eau.
Ça rend de l'eau, oui.
Eh bien, elle les mettait au four avant à dégorger un tout petit peu.
Ah, elle les faisait dessécher.
Voilà. Mais c'était encore extrêmement moelleux. Et elle mettait ça au four. Voilà.
Votre plus beau repas, Michel Guérard?
Il y en a eu beaucoup.
Et j'imagine.
Juste après la guerre, je me souviens plus particulièrement de ce repas. C'est des amis de mes parents qui étaient de fins gastronomes discrets. Et ils nous avaient invités et ils avaient fait venir un cuisinier qui, nouvellement arrivé de Rouen, qui était chef à la Couronne. La Couronne à Rouen était un beau restaurant.
Ah oui, une très grande table.
Et il était venu donc chez ces gens-là, à la campagne, et il nous avait fait un repas assez extraordinaire, manière escoffier. Et à la fin du repas, il nous a présenté une glace sur deux signes qu'il a sculptée devant moi. Vous voyez, une bombe glacée. Le gosse que j'étais n'en pouvait plus de bonheur. Et je pense quelque part que ça a certainement participé au choix que j'ai fait plus tard.
Pour faire de la pâtisserie.
De devenir à mon tour homme de cuisine.
Eh oui, pâtissier avant de devenir cuisinier. Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Michel Guérard ?
J'emmènerai des radis au beurre.
Oh, c'est bien ça, ça marche.
J'adore.
Et un petit peu de sel quand même ou pas ?
Ah bah oui, ah oui, oui, avec un petit peu de sel.
Ah bah ça,
mais
c'est bien.
J'emmènerai peut-être aussi une canne.
Eh oui.
Mais pas la femelle du canard, la canne pour attraper les poissons.
Quel est votre mot préféré en cuisine, Michel Guérard ?
J'aime bien dire bravo. Bravo aux jeunes.
À votre équipe.
On parlait
mais
des
oui.
jeunes quand ils ont compris ce que je voulais faire dans un plat et qu'ils ont tout compris, ils le refont parfaitement bien. Alors là, oui, je vais vers eux et j'applaudis.
Quelle est votre adresse secrète, Michel Guérard ?
Oh, mon adresse secrète, j'en ai plusieurs.
Ah, mais allez, une, allez.
Non, mais je ne les donnerai pas. Mais par exemple, il y a une dame qui me fournit des petits champignons extraordinaires.
Quoi,
mais
des,
elle
des,
en a très peu.
Des petits mousserons
si je... Oui.
Ah,
extraordinaire.
Elle est où, cette dame ?
Elle est par chez nous.
Mais
elle
la
est
localité...
un peu quelque part dans le sud.
Ses initiales commencent par quelle lettre ?
Non, je ne dirai rien.
Le mot de la fin, FIM, Michel Guérard.
Il me vient en tête comme ça ce que disait Michel-Ange qui était très croyant, et il implorait le Seigneur, il demandait au Seigneur, il disait au Seigneur, le Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne peux accomplir.
Eh ben voilà, ben c'est
ben
tout.
C'est
bon.
Le mot de la fin.
Eh ben c'est ce qui fait votre jeunesse. Merci beaucoup, Michel Guérard. Merci d'être venu à la table des bons vivants. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci pour vos conseils. Merci de nous avoir donné justement les clés de votre menu de réveillon. Merci à la bande des bons vivants aussi, bien entendu, Yves Candebord, Olivier Pouls, Marion Sauveur et Jean-Luc Petit-Renaud. Merci à Lucie Lescourou et Julien Amat à la rédaction. Jean-Luc Arblade à la réalisation. Maryse Jacquet à la programmation. Vous retrouverez les recettes sur europe1.fr. Bon week-end, les amis.
Joyeux réveillon.
Bon préparatif de réveillon, absolument. Et rendez-vous l'année prochaine à la table des bons vivants.
On y sera.
Belle fin d'année. Bravo.
Merci Michel Guérard.
Merci de m'avoir invité.
Mais c'était un plaisir et un bonheur. Bon week-end, Justine.
Bon week-end, Laurent, et à l'année prochaine. Je rappelle que vous pouvez réécouter en toutes les émissions sur europe1.fr et que vous retrouvez Laurent Mariotte samedi prochain à 11h. En attendant, dans quelques minutes, c'est votre journal de la mi-journée qui va commencer avec Sébastien Krebs. Passez une très très bonne journée. Il est midi 27.